si la campagne présidentielle changeait de ton et si le gouvernement Macron finissait par être sérieusement ébranlé par les affaires autour d'Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée? Et si, au-delà de Mediapart, les médias s'en inquiétaient et arrêtaient, par exemple, de parler de Zemmour? Alexis Kohler est soupçonné d'avoir exercé une influence tout à fait démesurée dans deux dossiers, celui de la fusion Veolia-Suez et celui de MSC, un énorme transporteur maritime italo-suisse dont il est proche familialement et qui bénéficie de nombreuses facilités de la part de l'État. On va parler d'Alexis Kohler aujourd'hui. Bienvenue dans le Club Indé, notre club de la presse indépendante. Et bienvenue aussi à celles et ceux d'entre nous qui nous regardent sur YouTube. Au programme ce jour, deux sujets, le pass sanitaire et les médias indépendants. Alors que grandit cette cinquième vague épidémique, on a mis nos masques. La suppression du pass n'est plus du tout à l'ordre du jour, évidemment. Et certains d'entre vous, nos abonnés, vous regrettez que nous ayons n'ayons pas critiqué le dispositif du pass sanitaire et son traitement médiatique. On va en parler avec notre médiateur, qui est journaliste à Arrêt sur Image.
Bonjour,
salut Loris. Et aussi avec vous, Mathias Enthoven, vous êtes le directeur des programmes de Blast, le média fondé par Denis Robert, qui a 9 mois d'existence. Et donc, on va parler d'Alexis Kohler. Peut-on enquêter sur le gouvernement Macron à quelques mois de la présidentielle? On en parlera avec vous, Jean-Baptiste Rivoire et Yanis Mamdi. Vous êtes tous deux journalistes d'investigation. Vous avez lancé une série de documentaires intitulée « Emmanuel, un homme d'affaires à l'Élysée », dont le numéro 1, l'affaire K, pour colère, est diffusé sur Blast, justement, et sur YouTube. Alors j'ajoute, Jean-Baptiste, que nos abonnés vous connaissent bien. J'ai tapé votre nom hier sur le moteur de recherche et il y a beaucoup d'articles, beaucoup de contenu. Vous êtes un historique du journalisme d'investigation télé en France. Vous avez notamment co-dirigé Spécial Investigation sur Canal+, une émission qui a été trappée par Vincent Bolloré. Et vous avez finalement quitté Canal il y a quelques mois, après une très, très, très longue négociation. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de se plonger dans nos deux sujets, c'est bientôt Noël et la presse indépendante vous fait les yeux doux pour remplir ses caisses. Blast, vous avez lancé votre campagne de dons. J'ai regardé la vidéo... on voit ici la campagne. J'ai regardé la vidéo de Denis Robert qui semble inquiet quand même de la situation financière. Il dit on a besoin de 150 000 euros par mois pour faire tourner la web télé. On n'en reçoit que 90 000. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'heure est grave? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, la situation de Blast, elle est particulière parce que quand on a fait cette vidéo, la plupart des gens ont été très surpris. Alors, les gens, et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs...
La vidéo de Denis a surpris.
Parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui laissent penser que Blast va bien. C'est-à-dire qu'on fait des bonnes audiences, on a de très bons retours de la part des gens de manière générale, on a une croissance qui est très importante sur les réseaux sociaux et même en termes d'abonnés, etc. Donc, objectivement, on pourrait se dire que les indicateurs sont au vert, etc. Simplement, on s'est lancé dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de financeur privé. On a fait une levée de fonds auprès du grand public sur KissKissBankBank qui nous a permis d'avoir une trésorerie.
Presque 1 million de 900 000 euros.
Ouais, 920 000 euros auxquels il faut enlever les 8% versés à KissKissBankBank, auxquels il faut enlever les contreparties qui étaient des livres, des BD qu'il faut envoyer, acheter, etc. Donc ce n'est pas vraiment 900 000 euros.
Parce que vous récompensez vos donateurs par des livres et
oui,
des BD.
Oui, en fait, c'est comme ça que fonctionnent les campagnes sur KissKiss. Mmh. Il y a un certain nombre de contreparties. Donc ces contreparties, évidemment, bon, on n'achète pas les livres au prix coûtant, etc. On les a moins chers, mais malgré tout, il faut quand même payer les livres, payer les envois, etc. Donc c'est plutôt 800 000 euros qu'on a reçus à la fin que 920 000. Voilà. Donc, c'est quand même une très belle somme, ce qui nous a permis de nous lancer, de louer des locaux, de faire des travaux qui nous ont coûté de l'argent, etc. Et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que par rapport au prévisionnel qu'on avait, on a dépensé plus d'argent que ce qu'on avait prévu. Il a fallu payer des cautions de 6 mois, il a fallu faire des travaux plus chers que ce qu'on imaginait, etc. Il y a plein de choses comme ça. On a eu un gros sujet d'enquête sur le Qatar qui nous est tombé dessus. Il a fallu prendre des journalistes pour travailler sur ce sujet, au-delà de ceux qu'on a salariés. Donc il a fallu prendre des pigistes, etc., qui ont travaillé à plein temps pendant des mois sur le sujet.
Et je précise que votre modèle économique, ce n'est pas l'abonnement. Hein. Enfin, c'est l'abonnement de soutien, mais il n'y a pas de payroll.
J'aurais peut-être dû commencer par là. Donc là, c'est vrai que c'est un média en accès libre. Ouais. L'accès libre, ça ne veut pas dire que l'information est gratuite. Ça veut dire qu'elle est financée par des gens qui font qu'ensuite cette information est accessible aux autres gratuitement, entre guillemets. Donc on a effectivement aujourd'hui à peu près 16 000 personnes qui sont abonnées à Blast et qui financent quotidiennement, mensuellement plutôt, le fait que d'autres puissent avoir accès à cette information. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension citoyenne dans le fait d'être abonné à Blast. de se dire que, alors je sais, le modèle jusqu'à présent, ça a plutôt été des médias derrière des ce qu'on appelle des paywall, des médias sur abonnement.
Comme nous, ouais.
Comme mmh. vous, comme Mediapart, etc., mmh. ce que mmh. je ne reproche absolument pas. Mais c'est, vrai que, mais c'est vrai que, en fait, pour moi, ce modèle, il avait une vertu qui était de permettre à des médias d'être stables ouais. Et de se stabiliser. Il a aussi un inconvénient qui est que cette information est limitée en termes de diffusion. Et c'est vrai que nous, comme on est parti sur la vidéo, on avait une véritable volonté. La vidéo, c'est ce qui est le plus diffusé aujourd'hui sur Internet. C'est-à-dire, c'est pas la photo, c'est pas les articles, c'est pas les écrits. C'est vraiment la vidéo, c'est ce qui est le plus viral sur Internet. Et donc, quand on a décidé d'investir un média indépendant en vidéo, on s'est dit que c'était quand même extrêmement dommage de ne pas pouvoir profiter de l'incroyable force de viralité de la
vidéo. Mais alors, donc là, vous avez besoin de sous.
J'arrive à notre résultat. Donc, on a à peu près 10 000 personnes qui nous ont 8 500 qui nous ont donné de l'argent pour un an, dont en mars, on espère qu'elles vont se réabonner et c'est fondamental qu'elles se réabonnent pour nous parce que si elles se réabonnent, on a gagné, c'est-à-dire qu'on est stable. Okay. Même si 50% de ces 8 000 se réabonnent, on s'en sort parce que dans le même temps, on a accumulé depuis des mois des nouveaux abonnés. Quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 16 000 abonnés, il y en a à peu près 6 000 qui payent mensuellement et 8 000-9 000 qui ont donné... pendant la campagne pour un an. Mmh. Donc vous voyez bien que notre enjeu, c'est de gagner suffisamment d'abonnés pour arriver au bout de la première année et avec l'arrivée des abonnés qui avaient payé sur un an, s'ils se remettent à payer, normalement, on est stable. C'est-à-dire qu'on a des revenus qui nous permettent d'accord. de payer nos salaires, nos loyers, nos frais, etc. Simplement, là, on a un enjeu qui est qu'à 3-4 mois près, on a un déficit de trésorerie. Qui fait que, alors qu'on dépense, j'en sais rien, disons 150 000 euros, on a 100 000 qui rentrent et donc on a 50 000 de trésor qui manque ce mois-ci, peut-être 40 000 le mois d'après, 30 000 le mois de suivant, 20 000 en mois de mars et normalement,
et ça s'accumule.
En avril, on est stable. Ouais. Mais simplement, donc il nous manque, mettons, à peu près 200-250 000 euros pour tenir jusqu'à mars sur la progression qui est la nôtre actuellement.
Alors pour aider Blast, on mettra dans le contenu tous les liens nécessaires. Alors, donc il y a vous, il y a Politis, qui a 33 ans, qui est un des plus vieux médias indépendants. On avait invité Agnès Rousseau au dernier Club Indé. Ils ont des soucis, ils sont au bout de leur réserve, il y a beaucoup moins de publicité. Elle me dit qu'il y a beaucoup moins d'aide de l'État, parce qu'eux bénéficient d'aide de l'État. Pas d'événement de recrutement d'abonnés à cause du Covid. Politis recherche 500 000 euros pour se relancer, créer un nouveau site. Et au bas de ce contenu, on mettra aussi... le lien de cette tirelire, la vôtre et celle de Jean-Baptiste Rivoire et Yanis Mamdi dont on parlera tout à l'heure. Arrêt sur image, je vous le dis, on tient bien le coup grâce à vous, nos fidèles abonnés, merci infiniment, mais comme chaque année, on commence nous aussi notre campagne de dons. Alors pourquoi une campagne de dons? Parce que c'est grâce à ces dons de fin d'année qu'on peut faire un abonnement très très doux, hein, le fameux 4 euros par mois, et puis on propose même des abonnements à prix encore plus doux pour les précaires, les plus précaires d'entre vous, et pour mettre aussi souvent que possible nos contenus en libre accès, puis on va vous concocter en récompense un joli calendrier de l'Avent plein de surprises en décembre. Et à la fin de l'émission, j'aurai une annonce à vous faire sur Arrêt sur Image. Pardon, je crois que j'ai cogné sur mon micro. J'aurai une annonce à vous faire concernant Arrêt sur Image. Donc, restez avec nous. Et puis, pour clore cette séquence d'actualité, on va parler, c'est étrange, de Karine Lemarchand. Oui, l'animatrice de M6. Que vous retrouvez régulièrement dans nos enquêtes et dans nos montages pour toutes sortes de raisons. Quel est le rapport avec la presse indépendante? Eh bien, regardez cette vidéo de Mars Actu, le média indépendant de Marseille.
Bonjour à toutes et à tous. Si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un appel à la transparence que lance Mars Actu. Sa genèse est simple. Il y a quelques semaines, on cherchait à connaître le montant de la rémunération de Karine Lemarchand comme ambassadrice de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ce qui nous a été répondu, c'était que c'était un plan média et qu'on ne communiquait pas sur les montants de ce plan média. Alors, cette réponse ne nous a pas satisfait, mais elle ne saurait satisfaire personne parce qu'il s'agit là d'argent public. Et donc, cette réflexion est né un appel que vous retrouvez en dessous de cette vidéo et qui demande la transparence sur l'ensemble des relations entre les collectivités locales, mais aussi la préfecture et les entreprises de presse. Pour nous, c'est un gage de clarté pour le lecteur et le citoyen qui doit savoir quelles sont les relations d'intérêt entre une entreprise de presse et les collectivités locales.
Voilà, donc en fait, les collectivités locales, vous savez, ont de nombreux partenariats, notamment avec la presse quotidienne régionale, qui posent des problèmes d'indépendance de la presse. Mars Actu veut comprendre. Mars Actu veut savoir combien Karine Le Marchand est payée pour faire un travail d'influence en faveur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et alors, suite à cet appel à la transparence de Mars Actu qu'on met aussi dans le contenu, et d'ailleurs, vous pouvez vous-même, si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, envoyer des demandes de transparence auprès des différentes collectivités. Mars Actu vous propose d'envoyer des mails en disant « Ok, combien vous donnez, à quels médias ?» Suite à cet appel, on a estimé, Loris, que ça pouvait nous intéresser, nous aussi, cette histoire.
Oui, non seulement que cette histoire pouvait nous intéresser, mais qu'en plus nous n'avions, nous, Arrêt sur Image, pas les moyens d'engager une enquête sur le plan national concernant les collectivités territoriales françaises qui sont très nombreuses, des mairies aux régions, aux départements, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Par contre, d'autres médias indépendants semblaient aussi intéressés. Nous avons donc estimé que ça méritait que nous nous impliquions aux côtés de Mars Actu et d'autres médias indépendants afin de mettre en lumière ces financements qui sont souvent beaucoup moins visibles que les subventions d'État, mais dont le montant pour chaque média et également le montant total interroge quant à l'indépendance des médias.
Voilà, donc à venir une enquête en partenariat avec d'autres médias indépendants sur l'argent que donnent les collectivités locales aux médias, où ça va, combien et quelle est l'influence sur la ligne éditoriale, donc à suivre.
C'est possible d'en dire ?
Oui.
Oui, parce que en plus de ces aides-là, que moi d'ailleurs j'ignorais qu'il y avait autant d'aides locales, etc. Moi, je voulais rebondir sur les aides nationales qui sont données à la presse, parce que ça aussi, c'est quand même une question assez importante. Là, je regardais tout à l'heure, nous, si on nous donnait ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'on donne à Libé tous les ans, on était stable et stabilisé pour le restant de nos jours sans avoir besoin de cette aide tous les ans. Et je trouve que ça pose quand même une question qu'on donne autant d'argent. Donc Libé, c'est 4,5 millions en 2019, c'est pas pour viser Libé, hein. Le Parisien en France, c'est 12 millions, etc.
Ouais,
12,7.
Le Parisien et les Échos, en tout cas, c'est.
Ah oui, bah voilà. En tout cas, les journaux de Bernard Arnault, qui est pourtant la première fortune mondiale, ou quasiment une des premières fortunes mondiales, ça dépend des jours, oui, parce qu'il gagne 3-4 milliards par jour, et puis il repère, mais voilà. Ouais. Lui, il bénéficie d'aide colossale pour financer ses médias d'influence. Donc en fait, il faut s'en rendre compte, il donne souvent le sentiment d'être des gens qui aident la presse. En réalité, ils sont largement aidés et subventionnés. En réalité, ça leur coûte assez peu cher pour toute l'influence qu'ils y gagnent. Et je trouve qu'il y a un vrai enjeu quand même à remettre en cause aussi ces aides. Et je sais qu'il y avait eu un élan là-dessus avant l'été, il me semble, de plusieurs médias indépendants.
Alors, je précise que le SPIL, dont Arrêt sur Image est membre fondateur, le SPIL, c'est le syndicat des éditeurs de presse en ligne. On voit l'image sur l'écran. C'est un combat de très longue date du SPIL, en particulier concernant les aides directes à la presse, puisque le SPIL favorise de très loin l'idée d'aide indirecte, par exemple la TVA réduite à 2,1%, qui bénéficie à tous les médias sans distinction, qu'ils soient indépendants, privés, publics.
Et là, c'est le fruit d'une enquête du SPIL qui a été très compliquée. Ils n'arrivaient pas à savoir combien l'État versait.
Depuis deux ans, on a du mal à savoir, oui, effectivement.
Voilà. Vous voyez, les Échos, le Parisien, 24%, c'est incroyable.
On est d'accord que nous tous, médias indépendants, avec un dixième de cette somme, ça change notre vie, ça nous permet d'être stable, ça nous permet d'exister, ça nous permet d'embaucher. C'est quand même fou.
Encore faut-il avoir envie d'être financé par l'État, ce qui n'est pas nécessairement notre cas, nous.
Alors, ces aides pourraient néanmoins être transformées en un crédit d'impôt, par exemple, comme le propose Julia Cagé, qui permettrait à chaque citoyen de donner une somme donnée annuelle à un ou plusieurs médias de son choix.
Et précisons que l'énorme majorité des industriels qui contrônent les journaux en jaune là-bas sont des gens qui ont soutenu ou voire appelé à voter Emmanuel Macron en 2017.
Précision utile. On va parler du pass sanitaire et des médias indépendants. Depuis l'annonce de l'instauration du pass le 12 juillet, on a reçu beaucoup de mails à Arrêt sur Image nous reprochant de ne pas avoir critiqué suffisamment le pass sanitaire et son traitement par les médias. Loris, tu es notre médiateur, d'être journaliste, en plus d'être enquêteur. Que nous disent nos abonnés ?
Alors, ces derniers mois, nos abonnés ont laissé de nombreux commentaires sous les articles qui pouvaient concerner de près ou de loin le pass sanitaire et parfois sous d'autres articles. Ils nous ont aussi écrit des longs courriels pour nous exprimer leur désapprobation à propos de notre traitement insuffisant, selon eux, des travers médiatiques liés au pass sanitaire. Je pense notamment à un abonné de longue date qui nous a écrit en se disant inquiet à propos d'une prolongation indéfinie, en disant, je cite, « Je n'aurais jamais imaginé qu'Arrêt sur Image soit absent du combat pour la vérité et la liberté. » Un autre a pris la plume pour nous dire qu'il était pour la première fois déçu par notre non-traitement de l'actu lié au Covid dans les médias mainstream ces derniers mois et se demande pourquoi Arrêt sur Image, qui a toujours été ouvert à des vues alternatives concernant la politique, l'économique ou le social, ne semble pas l'être en ce qui concerne le domaine de la santé. Et je tiens à faire remarquer, avant de rendre la parole à Emmanuel, qu'on retrouve ces reproches dans les commentaires d'articles de bien d'autres médias indépendants. Je pense par exemple à Mediapart, dont la dernière enquête à propos de Didier Raoult a engendré plus de 1000 commentaires, et au point que la rédaction a fourni une explication dans son espace de commentaires face à tout ce mécontentement de ses abonnés.
Il y a une attente singulière des abonnés de médias indépendants par rapport à cette question-là. Alors nous, on a publié plusieurs articles quand même sur le pass sanitaire depuis son annonce, un décryptage des hashtags qui ont fleuri après l'allocution d'Emmanuel Macron, un article sur la difficulté des médias à distinguer les différents courants de pensée dans les manifestations, parmi les manifestants anti-pass, les décomptes douteux du nombre de manifestants qui ont été largement sous-estimés, les relations houleuses entre les médias et les manifestants sur place. Et puis notre chroniqueur, Thibaut Prévost, qui fait la très bonne chronique Clic Gauche, a publié une chronique qui a été intensément commentée, 545 commentaires, où il faisait état de son dilemme. Oui, le pass est utile pour freiner la contagion, et oui, c'est terrible en termes de liberté publique. Et je dirais qu'on avait d'ailleurs fait un article de médiateur sur tous ces commentaires, et je dirais que son dilemme, eh ben, c'est le nôtre, c'est celui de la rédaction d'Arrêt sur Image, ça l'est encore. Mais par ailleurs, nous n'avons pas observé de dysfonctionnement médiatique quant à la couverture du pass sanitaire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être moins d'articles que ce à quoi vous pouviez vous attendre.
Et si je peux me permettre une précision, Emmanuel, nous n'avons pas constaté de dysfonctionnement médiatique majeur, étant entendu qu'en cette période de campagne présidentielle, nous avons de très, très nombreux sujets à traiter.
En plus, il y a plein d'autres choses. Il se passe plein d'autres choses.
Juste, ce que je peux ajouter, c'est que le pass sanitaire n'est pas obligatoire lors des meetings politiques. Ça, il faut le savoir.
Ah, d'accord.
C'est quand même un peu contradictoire. Bah, c'est contradictoire et les médias n'en ont jamais parlé. C'est-à-dire que les politiques ont décidé que pour leur meeting, il n'y avait pas besoin de passe sanitaire.
Ouais, parce qu'ils espèrent réunir le maximum de gens. Bon, quant à Daniel, qui est souvent nommé dans les mails de nos lecteurs, il a résumé sa position dans un édito du 31 août « Touche pas à mon pass », où il écrit que pour éviter un nouveau confinement, c'est la moins mauvaise des solutions, mais que Macron a bien tort de triompher à ce sujet. Et Daniel, n'oublie pas, écrit-il, votre, en parlant de Macron, impréparation sur les masques et les tests, votre catastrophique politique hospitalière, mon pass n'est pas à vous, touche pas à mon pass. Voilà. Voilà pour cette petite partie sur Arrêt sur Image et le pass sanitaire. Et puis, on va parler de vous, Blast, et le pass sanitaire. J'ai regardé la manière dont votre média a évoqué le pass depuis le 12 juillet pour essayer d'identifier votre ligne éditoriale. Parmi vos contenus, alors j'ai retenu notamment celui du 22 juillet, donc une vidéo, une loi contestée et dangereuse. Le contenu est un peu plus nuancé que le titre, là. Et Serge Faubert, notamment, parle des manifestants d'une manière très intéressante. On écoute.
Samedi prochain, de nouveaux cortèges contre le pass sanitaire rassembleront des milliers de personnes un peu partout en France. Ce serait une erreur de les réduire à la mouvance anti-vax ou à l'extrême droite. Dans leur immense majorité, les manifestants veulent simplement exprimer leur défiance envers le gouvernement et le chef de l'État.
Voilà, et puis dans la même vidéo, Serge Faubert critique la députée Martine Vonneur, égérie des anti-masques et des anti-passes, et qui, il faut le dire, spécialiste en fake news concernant le Covid. Le 1er août, vous interviewez le gilet jaune Jérôme Rodriguez, qui est en manif anti-passe, et qui explique aussi combien ce positionnement est complexe.
On a une particularité ici aujourd'hui, tu vois, tous les manifestants, nous on est pris entre deux feux. Tu as à la fois les complotistes du gouvernement et des médias, qui sont là à nous vendre un vaccin sans même nous prouver l'efficacité de ce dernier. Et de l'autre côté, on a les complotistes anti-vaccins qui eux-mêmes ne sont pas capables de prouver l'inefficacité du produit. Nous, aujourd'hui, tu n'as ici que des gens qui manifestent pour la liberté. Alors, je ne vous parle pas de Macron, qui est aussi un autre allié, parce qu'il suffit d'attendre la prochaine connerie pour, au final, mettre les Français en rogne et faire emmener dans la rue des primo-manifestants, des gens qui n'ont jamais manifesté, simplement pour revendiquer leur liberté, au moins la liberté de leur corps.
Ça montre un peu la complexité à défendre à son positionnement. Puis je voulais juste ajouter que vous avez tendu le micro dans les manifs Blast à des antipasses comme Florian Philippot, François Asselineau, à un militant CGT sur votre plateau qui parle à juste titre des entorses au droit du travail générées par le pass. Mais moi, je ne vous ai pas entendu leur opposer la légitimité du pass. Pourquoi ?
Alors, bon, moi, je vais parler un peu, mais moi je ne suis pas rédacteur en chef, donc je suis directeur des programmes, donc je suis moins sur l'éditorial, etc. Bon, ce qui est sûr, c'est que déjà, nous, on a essayé de parler de cette question de manière très large. Et donc déjà, aller en manifestation, donner la parole à toutes les personnes qui manifestent. Donc effectivement, ces manifestations donnaient lieu à des cortèges de l'extrême droite ou de Florian Philippot, etc. On a montré qu'ils étaient là, on leur a donné parfois la parole, on n'a pas non plus... On ne les a pas suivis, on les a suivis plusieurs manifestations en même temps, donc vous avez vraiment une diversité de paroles. Voilà. Et c'était la réalité. Dans ces manifestations, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait des complotistes extrêmement virulents, il y avait même des antisémites. Et puis à l'inverse, il y avait, je le crois aussi, une majorité de, et c'est en tout cas ce que les gens qui étaient sur le terrain ont vu, nous ont témoigné, etc. Ils disaient, bah ouais, il y avait des gens chelous, etc. Mais il y avait quand même une majorité de gens à qui on a parlé, qui n'étaient pas anti-vaccins, qui étaient scandalisés par la nouvelle étape de contrôle, de remise en cause des libertés à laquelle ça donnait Macron, sachant qu'on avait quand même eu un quinquennat où aller manifester devenait compliqué. Les mouvements sociaux ont été durement réprimés, etc. Donc voilà, il y a à mon avis un sentiment de il faut se battre pour nos libertés parce que c'est une étape supplémentaire. Bon. Ensuite, moi je considère qu'en tant que média, on n'a pas forcément à avoir un positionnement sur la question. C'est-à-dire que nous, on a donné la parole autant à la Quadrature du Net pour nous expliquer les failles qu'avait l'espace sanitaire en termes de protection des données, etc. Et c'est vrai, le gouvernement a fait un pass sanitaire très cheap en termes de protection des données, qui pose de gros problèmes, voilà, sur les questions de santé, mais aussi sur les questions de géolocalisation, etc. On a donné la parole à des membres d'Amnesty International pour nous parler des libertés, etc. On a donné la parole à des gens très divers, voilà, vous avez dit à Benjamin Hamard de la CGT qui nous a parlé de la problématique du droit du travail. Et en fait, moi, si je devais me résumer ma position, en tout cas sur la question, qui je pense malgré tout est peut être à peu près celle de Blas, elle ressemble assez à celle de Daniel. C'est-à-dire qu'on considère que Spass pose énormément de problèmes, qu'il arrive et qu'il s'inscrit dans une logique qui n'est non pas une logique de conviction, voilà, il n'y a pas une volonté de convaincre la population, il y a eu énormément d'imbroglios du gouvernement sur les masques, etc., qui ont créé de la défiance.
Et qui n'est pas non plus dans une logique d'obligation assumée.
Pardon ?
Et qui n'est pas non plus dans une logique d'obligation assumée.
Le pass,
L'État aurait pu dire...
D'obligation vaccinale.
Oui, voilà, nous voulons une obligation vaccinale.
Oui, mais alors,
on
y est presque. C'est-à-dire que...
C'est une manière d'y arriver sans le dire et sans le faire, ce qui me semble bien différent.
Je suis d'accord, mais dans le même temps, avec un discours hyper moralisateur et hyper agressif vis-à-vis des gens qui ne se sont pas encore fait vacciner, etc., il y avait quand même une très grande injonction à le faire. Mais bon, passons. Nous d'ailleurs, pour vous dire, on a eu, nous aussi, beaucoup de messages. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez le sentiment qu'on était plutôt anti-pass. Nous, on a eu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit qu'on critiquait pas assez le pass. D'ailleurs, il faut se rendre compte que les gens, parfois, je parlais tout à l'heure avec ma rédactrice en chef, on a sorti plus de 17 sujets en vidéo sur la question. La plupart des gens, en fait, ils ne les ont pas vus passer. C'est-à-dire qu'aussi, il y a un truc Internet, on ne voit pas tout passer, il y a le flux. Donc
on vous a accusé d'être anti-pass. Mais d'être trop pro-pass. Mais vous considérez...
Pas pro-pass, un peu comme vous, de ne pas avoir assez parlé, de ne pas avoir assez critiqué.
Et donc la ligne de Blas, ce serait, vous me disiez, plutôt anti-pass et mais pro-vax, comment on pourrait résumer la ligne de Blas ?
On considère que le pass sanitaire a d'énormes failles, pose d'énormes problématiques. Je dis on, mais je n'ai pas non plus envie de parler au nom de toute la rédaction, je ne suis pas le représentant de la rédaction. Mais donc, en tout cas, de ce que je ressens, de la manière dont c'est ressenti, dont c'est traité à Blast, on a le sentiment que le vaccin et le pass sanitaire sont des solutions... qu'on doit adopter, enfin voilà, qui sont pas forcément, enfin qui ont une utilité, on va dire, mais qui posent d'énormes problèmes, qui ont des failles. Moi je suis vacciné, etc. Mais quand je vois tous les jours les vaccins qui sont retirés pour telle ou telle raison, etc. J'entends qu'il y ait une méfiance et qu'il y ait des gens qui aient peur, quoi. Mmh. Et donc moi je pense que justement c'est là que les médias doivent rentrer en doivent jouer leur rôle. C'est-à-dire que là où il y a de la peur, du doute, etc., bah, faut des espaces de confiance pour les gens qui leur expliquent, etc. Voilà. Et nous, par exemple, si vous préférez, on n'est pas allé dire le vaccin, c'est grave, je sais pas quoi. On est allé dire, voilà, le pass sanitaire, bah, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de liberté, ça pose des problèmes d'information, de protection des données, etc. Et en plus, ça s'inscrit dans une logique où on pense que ce gouvernement a fait d'énormes erreurs et que toute cette coercition aurait pu être évitée.
Si on dit le pass, quand même, diminue les risques de contagion
C'était le point de vue au départ. Aujourd'hui, je ne suis pas certain, parce que quand on regarde le fait que le gouvernement lui-même dit bah, en fait, à cause du pass, les gens sont totalement relâchés, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent quand même transmettre le virus, même s'ils sont vaccinés. Et donc, en fait, le pass sanitaire a créé un espèce de blanc-seing, et moi, je le vois bien. La plupart des gens, maintenant, je suis vacciné, je te fais la bise, et machin, et bidule. Donc, je ne suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui a permis de donner, je suis pas sûr qu'au départ ça a été inutile, mais aujourd'hui je me demande si c'est pas contre-productif en réalité. Et puis la dernière chose, c'est quand même que, et ça aussi on en a parlé, on a fait un truc sur les lois d'exception. Cette mesure, elle vient quand même s'inscrire dans une logique temporaire, qu'elle est prolongée, prorogée régulièrement. Donc il y a aussi cette problématique là les mesures temporaires, on a déjà vu, on connaît un peu l'histoire, la chanson, souvent elles sont pas tellement temporaires, quoi. Donc Donc voilà, donc
c'est d'ailleurs là-dessus que vous êtes particulièrement appuyé, j'ai trouvé, hein, sur les dangers de la prorogation de l'état d'urgence. On va juste regarder Serge Faubert qui commente le fait que la loi de prolongation de l'état d'urgence est sur le point d'être adoptée.
Vendredi matin, l'Assemblée nationale se prononcera une troisième fois sur le texte. C'est elle qui a le dernier mot au terme de la Constitution. En bon petit soldat, les élus de la majorité présidentielle seront vraisemblablement au rendez-vous du gouvernement. 4 ans de caporalisme ont eu raison de leur lucidité politique ou, tout simplement, de leur courage.
J'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit c'est typiquement le genre de propos qu'on n'entend jamais dans les médias mainstream. C'est l'espèce d'ironie et le caporalisme des députés LREM. J'ai trouvé que c'était très à l'image de ce qu'est un média indépendant, en l'occurrence.
Deux petits mots revenir sur le pass sanitaire. Bon, d'abord, sur cette méfiance générale dans la population à la guerre des vaccins et donc du pass sanitaire et cette colère, il faut quand même voir qu'on sort quand même de 20 à 25 ans d'énormes mensonges de l'industrie pharmaceutique qui ont, j'allais dire, vacciné les gens. Mais enfin, je veux dire, combien de fois les labos nous ont menti sur « mais non, mon médicament n'est pas dangereux », alors qu'en fait, il est dangereux. J'achète les experts des organismes publics pour que les décisions publiques me soient favorables, etc. Donc, on a tellement menti aux gens qu'à un moment donné, ça crée de la méfiance. Et maintenant, on a un problème terrible, c'est que les gens veulent plus croire les labos.
Bon, enfin, tous, parce que là, quand même, la majorité s'est fait vacciner, finalement.
Ouais, enfin, en tout cas on a créé de la défiance à la guerre de l'industrie pharmaceutique à force que l'industrie raconte n'importe quoi. Et comme les médias ont tardé parfois à faire le boulot, il y a aussi maintenant une défiance à la guerre des médias. Donc, cette situation, je veux dire, c'est le résultat quand même de 20 ans de dérives graves. Et deuxième petite chose, pour moi, le pass sanitaire, c'est un peu un syndrome. Les gens s'accrochent à ça, mais je pense qu'il ne faut pas regarder juste ça. Pour moi, les gens s'accrochent à ça parce que c'est aussi le syndrome d'une espèce de dérive autoritaire plus globale de la Macronie, qui, elle, a parfaitement documenté. Et donc les gens, ils vont s'accrocher sur le pass sanitaire. Mais au-delà de ça, ils ont peut-être tort sur le pass sanitaire. Il faut peut-être faire le pass sanitaire. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Mais par contre, ça raconte, si tu veux. Moi, je trouve, ça raconte que les gens en ont marre d'une dérive autoritaire réelle, la loi sécurité globale et autres, le flicage, Pegasus. Enfin, on ne sait même plus qui est dans notre téléphone. Il y a un vrai problème quand même de liberté publique majeure. Et là-dessus, moi, je trouve que les gens ont raison.
Loris, tu voulais conclure sur le pass sanitaire et les médias
Alors, je partage cette analyse. Il est intéressant de noter que, en tout cas dans la plupart des espaces de commentaires de médias indépendants que j'ai pu regarder, il est extrêmement difficile pour ces médias d'expliquer à leurs lecteurs que, effectivement, ils tiennent un discours qui peut indirectement faire le jeu de Macron, pour le dire clairement, mais que ça n'en fait pas des médias pro-système. Et que ça ne les rend pas des valets du pouvoir. Et c'est un message qui, actuellement, en tout cas, et depuis le début, en réalité, de la crise sanitaire, ne passe pas. Je pense, évidemment, Mediapart, c'est un exemple très emblématique, parce que...
Critiquer Didier Raoult, penser que le vaccin est efficace, fait passer les médias indépendants auprès d'un certain nombre de leurs abonnés pour tout d'un coup
Pour des valets du pouvoir de et du système, voilà. Y compris vis-à-vis de ce que tu disais, je pense très justement à propos de la perte de confiance envers l'industrie pharmaceutique, mais aussi envers, je pense notamment au Mediator, où on sait que le régulateur n'a pas joué son rôle.
Le Mediator, donc ce médicament...
Les régulateurs de l'industrie n'ont pas joué leur rôle, les régulateurs publics, l'État n'a pas joué son rôle. Et effectivement, le début de la crise sanitaire a été un désastre sur tous les plans, comme le disait très bien Daniel dans sa chronique. Il y a eu un enchaînement de mensonges, de contre-vérités, de plans de communication complètement foireux, que les médias indépendants ont par ailleurs couvert. Mais en fait, l'érosion de la confiance est telle qu'au moment où même nous, on dit « bah non, mais là, nous, on n'a pas forcément... » quelque chose à dire dessus, la colère se retourne aussi contre nous et contre beaucoup de médias indépendants qui ont souvent des abonnés qui sont eux-mêmes assez sceptiques de manière générale de ce qu'on peut leur montrer.
Nous, on a eu une petite idée pour ne pas se faire trop traiter de valet du pouvoir. On a décidé d'enquêter sur Macron.
Magnifique transition. Merci Jean-Baptiste. Merci Loris. On se retrouve dans une minute. On va maintenant parler du travail de Yanis Mamdi et Jean-Baptiste Rivoire sur le quinquennat Macron. Vous avez proposé à plusieurs chaînes une série documentaire sur Emmanuel Macron à quelques mois de la présidentielle. Alors, l'idée, c'est quoi? Pour montrer quoi, en fait?
En fait, c'est un peu normal. C'est-à-dire qu'en fin de quinquennat, à un an d'une nouvelle présidentielle, on peut commencer à faire un bilan de ce qu'a fait le président. Ça fait 4 ans qu'il est là. En plus, le quinquennat Macron a été riche en événements, les gilets jaunes, la santé. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Et de mon point de vue, avec un rapport à la loi un peu distendu, un peu intéressant, un rapport à l'éthique publique aussi un peu distendu. Donc franchement, c'est un boulevard pour nous. Et donc, moi, j'avais déjà essayé de faire un bilan avec quelques copains du quinquennat Hollande en 2016 à Canal+. Bon, Vincent Bolloré venait de prendre le pouvoir, donc ça n'a pas été possible. On nous a dit non. Quatre enquêtes sur Hollande qui ont été torpillées. Et là, en sortant...
Torpillées, ça veut dire qu'elles n'ont pas été diffusées du tout.
Voilà, des producteurs nous ont proposé quatre excellentes enquêtes qui faisaient un peu le bilan de la Hollandie. Donc, il y avait les guerres de François Hollande et leurs effets pervers. Il y avait les failles des services antiterroristes en 2015, quand même. Il y a eu des failles de services français majeurs qui ont été mises sous le tapis. Bon, voilà. Donc tout ça, ça a été non. Et donc en ressortant 4 ans après, je me suis dit, bah, super, on va faire maintenant un peu le bilan de Macron. Et je pense même que notre boulot, ce n'est pas juste de faire notre boulot à 6 mois des élections. Normalement, c'est tout le temps notre boulot. Mais en tout cas, voilà, à 8 mois d'une présidentielle, vraiment, il faut le faire. Et donc on l'a proposé effectivement à toutes les chaînes, à toutes les plateformes. Et tout le monde a dit non.
Alors ça, on va y revenir. Mais les différents épisodes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu en gros ce qu'il y aura comme épisode? Il y a le premier sur Alexis Kohler, dont on va parler aujourd'hui, et ensuite.
Absolument. On a eu envie de s'intéresser à une histoire assez intéressante. Il y a eu une guerre terrible d'actionnaires pour prendre le contrôle du journal Le Monde en 2010, avec un Sarkozy qui cherche à être réélu et qui veut peser, et qui veut que ce soit des actionnaires qui lui sont favorables, qui mettent la main sur Le Monde. Il y a eu des bagarres terribles de la droite pour essayer de prendre le contrôle du Monde. Et Emmanuel Macron joue à cette époque un rôle très intéressant, puisqu'il va conseiller les journalistes du Monde en leur disant « Moi, je suis neutre et j'adore la presse indépendante et je vais vous aider gratuitement. »
En tant que
banquier d'affaires chez Rothschild, pour les aider à trouver des repreneurs. Et on va découvrir au cours de cette affaire qu'en fait, il a joué un double jeu et qu'en fait, il a favorisé, il a travaillé en sous-main pour les repreneurs préférés de Nicolas Sarkozy. Donc, il a failli faire tomber Le Monde entre les mains de gens favorables à Nicolas Sarkozy.
Alors ça, c'est le deuxième épisode.
Il y en a d'autres. On va travailler sur...
Le maintien de l'ordre durant le mouvement des Gilets jaunes, comment il s'est orchestré, les relations entre Emmanuel Macron et le pouvoir algérien, la crise de l'hôpital, il y a quoi encore?
On a trouvé un bon titre, Hôpital, la République en panne. Bon, c'est un peu dans l'actu, mais on a le sentiment qu'il y a un énorme problème sur l'hôpital. Alors, c'est toujours pareil, quand on surfe sur l'actu, on entend le coup de gueule d'une infirmière, la déclaration de Castex, etc. Donc là, Cécile Dolman va faire un travail de fond sur 20 ans, c'est-à-dire qu'elle a enquêté, elle a fait un dossier, tout ce que la télé aime pas, un dossier sur 20 ans de politique publique à l'hôpital, 20 ans de management réganien ou thatchérien, ultralibéral à l'hôpital, avec un harcèlement des chefs de service, des soignants.
Y compris pendant les gouvernements socialistes.
Ça fait 20 ans que ça dure, de gauche comme de droite. On est dans une logique de management ultralibéral qui, de mon point de vue, crée une maltraitance au sein des services publics, et c'est vrai aussi dans la police, et c'est vrai aussi dans l'éducation nationale. On a quand même un État en France depuis quelques années qui maltraite ses fonctionnaires, qui les harcèle. À l'hôpital, il y a des souffrances monstrueuses.
Et vous faites le lien entre... ce qui m'intéresse, c'est quel est le lien que vous faites entre son métier de banquier d'affaires, son ancien métier de banquier d'affaires, et sa gestion de différents types de...
Alors, quand on a réfléchi au titre de notre série, on se disait, est-ce qu'on dit un banquier d'affaires à l'Élysée? Mais en fait, Macron, ce n'est pas juste un banquier d'affaires. Il a été banquier d'affaires chez Rothschild, certes. C'est aussi un homme d'affaires, parce qu'il commence à avoir des casseroles, des affaires. En fait, l'impression qu'on a, c'est que c'est un peu un monsieur qui a défendu des très grandes entreprises pour faire des fusions-acquisitions, qui a fait fortune dans la banque d'affaires avant d'entrer en politique. Et on a un peu le sentiment que quand il est arrivé à l'Élysée, il est resté un petit peu l'émissaire ou l'ami de toutes ces grandes entreprises. Et qui fait, je ne sais pas très bien qui il représente, en fait. Est-ce qu'il aide ces grandes entreprises à fructifier leur business, ou est-ce qu'ils représentent la population? Et on a quand même souvent, dans plusieurs dossiers, l'impression que finalement, il n'est pas tellement au service des gens qui l'ont élu, mais il est au service de très grandes puissances financières. Donc, ça interroge.
On peut voir l'épisode 1 sur Blast. Vous avez choisi, Mathias Enthoven et l'équipe de Blast, d'héberger l'épisode 1 de la série de Jean-Baptiste Rivoire. Pourquoi vous avez choisi d'héberger cet épisode-là sur Alexis Kohler, dont on va parler donc?
Alors pour plusieurs raisons, la première étant purement personnelle. Jean-Baptiste et Yanis sont des bons copains, des gens que je connais depuis un certain temps. Yanis, on a travaillé ensemble aux médias. Jean-Baptiste, on l'a beaucoup vu à l'époque du média, il passait nous voir, etc. C'est deux personnes que j'apprécie énormément, dont j'estime le travail et l'intégrité professionnelle. Donc déjà, il y avait un terreau favorable. Ensuite, Blast s'inscrit totalement dans une logique de coopération et de création de passerelles avec des médias indépendants. On a lancé là pas mal de collaborations qui vont bientôt aboutir, des émissions en commun, des partenariats, etc. avec divers médias indépendants. D'ailleurs, ça vaut au-delà des médias indépendants, ça vaut aussi pour des associations comme la Quadrature du Net, comme Attaque. En fait, on essaie de créer un réseau. En face, ils sont organisés en réseau, en fait.
En face, c'est qui, en face?
En face, c'est-à-dire le pouvoir, les puissances financières, les grands patrons, etc. Enfin, c'est pas moi, c'est Warren Buffett qui le disait. Nous, on a gagné la guerre, on s'organise, etc. Enfin, bref. Donc, c'est vrai que nous, à l'inverse, on veut essayer de créer un autre type de réseau, un réseau de résilience, de solidarité, d'indépendance.
De résistance.
Et parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas tout seul. C'est-à-dire que, même si moi, j'ai beaucoup d'ambition ambition pour Blast et que j'espère que Blast va devenir un très grand média indépendant. En fait, même un très grand média indépendant tout seul ne suffit pas. Il faut qu'il ait des relais dans la société civile, il faut qu'il ait des relais dans le secteur associatif, il faut que plusieurs médias indépendants se mettent ensemble. C'est vraiment, en tout cas, je tiens à ça.
La démarche du Fonds pour une presse libre, hein, d'ailleurs, initiée.
Alors, totalement, voilà, ouais. Même si je pense qu'il vaut mieux fédérer les médias indépendants existants que d'en créer une multitude de nouveaux. J'ai plutôt tendance à croire qu'il faut 3 ou 4 Mediapart, enfin, médias du niveau de Mediapart, etc., plutôt que 50 000 médias locaux, etc., même si c'est très bien qu'il y ait des médias indépendants locaux. Hein, mais voilà, moi, donc nous, on essaie de créer un mastodonte de l'information, mais on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et donc, on s'inscrit à la fois là avec Off dans cette logique-là, alors que nous-mêmes, on est en campagne, on doit lever des fonds. Hein, donc, mais en fait, moi, je persiste, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais les deux ne se court-circuitent pas. On a fait ce truc avec Off, et puis derrière, on a lancé notre campagne de levée de fonds, et ça a très bien marché.
Off Investigation, c'est donc le nom du média. Vous avez décidé de vous nommer, enfin de devenir un média pour pouvoir diffuser votre série.
Oui, alors nous on a moins d'ambition que Blast ou le média, c'est-à-dire qu'on ne lance pas tout de suite d'emblée un média avec 15 journalistes, etc. On a fait un truc un peu différent, on a fait un appel au don sur KissKissBankBank pour un produit journalistique précis, pas un documentaire, mais une série d'investigations sur Emmanuel Macron. Une série d'investigations sur Emmanuel Macron. Et on va essayer de tenir le pari, c'est-à-dire moi j'ai engagé de l'argent perso qui sortait de mon indemnité Canal pour financer ce truc-là. Et on a dit aux gens, voilà, on a besoin que vous le financiez, qu'on avance ensemble. Et on va essayer de livrer cette série de 9 épisodes sur Macron avant la présidentielle. C'est un exploit. Je pense qu'on va y arriver. Et c'est ça le pari. On n'a pas l'ambition de créer un média viable. J'espère qu'après, on pourra pérenniser le site Off. On verra bien comment ça fonctionne. Vous avez plus d'expérience que nous là-dessus. Mais nous, déjà, on fait cette série. Et si possible, on pérennise le truc. Et on essaie de faire de l'investigation audiovisuelle sur le net, ce qui est un produit cher et compliqué à fabriquer. Mais on pense qu'il y a un besoin immense. Et d'ailleurs, le premier épisode qu'a co-signé Yanis a fait un carton sur YouTube, puisqu'on est à plus d'un million de vues avec Blast. Et ça montre, enfin, nous, on a plein de messages, et vous aussi, de gens qui disent, mais oh là là, mais c'est super, on a besoin de ça vraiment. Et ce qui veut dire que les gens, ils ont de l'investigation à la télé, je veux dire, ça existe. Mais manifestement, ils ont besoin de quelque chose qui est un peu plus les pieds dans le plat. Enfin, en tout cas, quand on parle de Macron, ils ont l'air contents, quoi.
Parce que nous, en plus, je ne sais pas combien a coûté le... On ne va pas forcément donner les chiffres, je ne sais pas si c'est un chiffre précis, mais ça coûte cher, en fait, de faire de l'investigation en vidéo. Et nous, pour l'instant, vous voyez bien, on est en campagne, je vous expliquais, on a des problèmes de trésorerie, etc. On ne pouvait pas... et pourtant, c'est une grosse frustration, parce qu'on a envie de le faire. Hein, mais on ne pouvait pas se lancer dans une grande série d'enquêtes sur Macron, alors qu'on pense, comme Jean-Baptiste, que c'est fondamental avant l'élection de faire le bilan de ce qu'est Emmanuel Macron. D'ailleurs, nous, je le dis en 2 secondes, parce que je ne veux pas faire gâcher la pub sur cette partie, mais on a fait plein de trucs du bilan économique, de bilan des ministres, etc. Parce qu'on pense que c'est... Et donc, ça s'inscrit aussi totalement dans cette logique-là, parce qu'on pense que là, à 6 mois du premier tour, il faut que les gens aient des éléments pour juger le bilan du quinquennat, juger les personnes qui font la Macronie. Et là, en l'occurrence, Alexis Kohler, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est l'éminence grise de l'Élysée. C'est le mec qui décide de tout avec Macron, quoi.
On va en parler. Alors, voici comment vous présentez, Jean-Baptiste, votre projet. On regarde.
Avec quelques autres journalistes, on a pondu un projet, un truc de fou, une série documentaire d'investigation sur le bilan de la Macronie.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous allez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.
Voilà, 9 épisodes de 26 minutes qui vont être diffusés autour de février-mars. Et là, vous expliquez que ça a été refusé par toutes les chaînes. On regarde cette partie-là.
M6 nous a dit on n'ira pas sur la politique, sauf avec Karine Le Marchand. TF1 nous a dit on a déjà un projet, certes un peu différent. France Télévisions nous a dit on a déjà un projet avec 352 sur Macron, on n'en fera pas d'autres. Arte nous a dit ça n'intéressera pas nos téléspectateurs d'Outre-Rhin. Restait Canal. Canal, ils m'ont dit on ne pourra pas t'accompagner sur ce projet, mais bonne chance pour la suite de ta carrière. Et Netflix, ils nous ont dit on n'ira pas sur des politiques en exercice.
Voilà, bon, Canal, on comprend pourquoi ils ne vous accompagneront pas sur ce projet. Ils viennent de vous virer quand même. Vous dites que ça a été refusé, donc TF1, France 2, Canal, Arte, Netflix. Qui vous a dit non ? Est-ce qu'on peut savoir à quel niveau de hiérarchie on vous a dit non, par exemple, chez TF1 et France 2 ?
Alors, moi, je ne les connais pas forcément très bien, mais c'est des gens haut placés qui sont à la direction de... Enfin, c'est des gens qui disent oui ou non à des documentaires, en gros. Donc, TF1, il y a un monsieur qui dit oui ou non, c'est le monsieur du guichet.
On peut savoir qui c'est, non ?
Je crois qu'il s'appelle... franchement, j'ai un doute, parce que j'ai eu deux personnes à TF1, mais c'est normal, là, je veux dire, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de projets, ils disent non 9 fois sur 10, comme nous, on faisait à Canal. Il n'y a rien de particulier. Et d'ailleurs, ils disent, c'est pas du tout parce que c'est Macron, en général, on en a déjà un, ou... en soi, si vous voulez, ça démontre pas grand-chose, c'est normal de se faire jeter. Ce qui se passe d'habitude, c'est que les gens de télévision qui proposent des projets un peu grattes, qui dérangent et qu'on les jette, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont super énervés, mais ils ferment leur bouche, ils se taisent, ils mettent leur orgueil sous le tapis, et puis ils rampent, et 6 mois après, ils reproposent un projet, parce que si par hasard ils gueulent, ils sont bannis. Il faut comprendre un truc qui est clé, c'est que jusqu'en 2015, il y a le groupe Canal qui fait un peu d'investigation, et France Télévisions qui a 3 guichets, France 2, France 5, France 3, et donc les gens peuvent aller dans 4 guichets différents.
Les journalistes,
les réalisateurs, voilà, peuvent faire toc-toc à 4 guichets différents. Quand Bolloré étrangle l'investigation à Canal, c'est déterminant, parce que c'est un écosystème, c'est-à-dire que c'est pas que Canal. Il étrangle Canal, et moi je me dis, oh putain, les copains de France Télé, ça va être plus dur maintenant. Pourquoi ? Parce que Ernaut se retrouve en position de monopole.
Delphine Ernaut, la patronne de France Télé.
Les journalistes de France Télé peuvent plus dire, ça serait bien d'accepter un peu des trucs sur la politique, parce que sinon, c'est Canal et Morera qui vont le faire. Parce que pendant 10 ans, c'est ça qui s'est passé. Quand Bolloré étrangle Canal+, Ernaut se retrouve en position de monopole. Et qu'est-ce qu'elle va faire en 2019? Elle prend les 3 guichets, elle dit maintenant, c'est un seul guichet. Et au guichet, elle met Catherine Alvarez, qui est la chef du guichet. Donc aujourd'hui, en France, vous voulez faire l'investigation documentaire, si vous n'arrivez pas à convaincre Catherine Alvarez, ça ne passe pas. Et très franchement,
et donc, vous n'avez pas réussi à convaincre Catherine Alvarez?
Ça passe de moins en moins. Moi, j'ai envoyé ça...
Elle vous a dit quoi, Catherine Alvarez?
Alors, les gens de France Télévisions m'ont répondu, c'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre, m'a dit, il y a déjà 3,52, c'est tout. Il faut savoir
donc
que cette
352,
série.
352, ça veut dire 3 documentaires
de 52 minutes.
Sur le quinquennat Macron.
Une série sur Emmanuel Macron. Je ne sais pas exactement sa teneur, mais ce qui est intéressant, c'est que France Télévisions va.
Qui va sortir donc.
Y a 352 qui vont passer, j'imagine, sur une des chaînes de France Télévisions. Très bien. Mettons par exemple que ce soit France 5, mais pardon, il y a aussi France 2 et France 3. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on vous dit non, mais ça y est, on a un projet sur Macron, sur le mastodonte du service public français. On a un projet sur Macron, c'est tout. C'est-à-dire que ça veut dire qu'en creux, que les autres chaînes, a priori, ne prendront pas de documentaire là-dessus. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. On a déjà un projet, ça suffit. Macron, il y a je ne sais pas combien de milliers de documentaires par an à France Télé. Récemment, ils ont fait par exemple un documentaire sur la maison de Bernard-Henri Lévy au Maroc. Donc c'était absolument passionnant. Mais franchement, peut-être qu'on peut faire plus qu'un projet sur Emmanuel Macron dans la période actuelle.
Et Envoyé spécial et Complément d'enquête, qui sont des émissions quand même susceptibles d'accueillir un tel projet, est-ce que vous les avez sollicitées?
Alors, franchement, moi j'ai présenté au début un projet de 90 minutes, parce que c'est sûr que si on pensait à une série, ils nous auraient dit « Ah ben non, mais nous on ne prend pas de série, c'est pas le style ». Bon, on a présenté un 90 minutes sur Macron, donc forcément, ce n'était pas forcément pour Envoyé spécial. Complément d'enquête, nous on a proposé la partie documentaire. Bon, après, je ne sais pas, peut-être que Complément d'enquête l'aurait pris, mais enfin, la personne de France Télé qui nous répond sur un projet d'investigation sur Macron peut se dire « Bah tiens, je vais le passer aux copains de Complément ». Bon, ça n'a pas été le cas, et moi je connais un petit peu le présentateur de Complément d'enquête. Bon, qui m'a pas dit, c'est formidable, envoie ta série. Donc, je pense qu'en réalité, c'est compliqué à France Télévisions d'enquêter sur le pouvoir exécutif, qui est aussi la tutelle, qui est aussi le monsieur qui tient le robinet de l'argent, puisque le pouvoir politique peut demain modifier la redevance, la supprimer. Emmanuel Macron, en arrivant en 2017, première chose qu'il dit, c'est je veux 60 millions ou 50 millions d'euros d'économie par an. Donc, il coince Delphine Ernotte dans une espèce de pression budgétaire constante, et c'est pas juste Macron. Sarkozy avait fait pareil en 2007. Donc, les copains du service public, ils sont vraiment coincés, très dépendants de la tutelle.
Sinon, quand même, que demain. Complément d'enquête diffuse une enquête très forte en collaboration avec un média indépendant, en l'occurrence Disclose, sur l'aide française à l'Égypte en termes de surveillance et d'interception de communication contre le terrorisme et un système qui a servi à tuer des civils soupçonnés de petits trafics de cigarettes et de drogue. Donc c'est quand même un sujet secret défense que Complément d'enquête sort demain. Je sais qu'en janvier prochain, ils vont sortir une enquête sur Mimi Marchand et Brigitte Macron. Ils ont travaillé sur les conflits d'intérêts d'Éric Dupond-Moretti, sur Benalla, sur le pantouflage des élites. Quand même, toute cette programmation, elle contredit un peu l'idée que les chaînes publiques ne peuvent pas travailler sur la Macronie.
Moi, je veux juste intervenir là-dessus. Il faut comprendre, c'est une émission.
Oui, c'est une émission.
C'est une seule émission qui fait un peu d'investigation, qui enquête un peu...
Un peu beaucoup quand même, non ?
Oui, un peu beaucoup, mais c'est une émission. Voilà, et comme il l'a dit, Jean-Baptiste.
C'est l'article de la forêt, quoi.
Voilà, exactement.
Alors, Tristan Vallec, c'est un excellent journaliste, un excellent confrère.
Donc, c'est lui qui dirige maintenant Complément
d'enquête. C'est le prix Albert Londres. Il avait enquêté sur Bernard Arnault au sein de France Télévisions. Il a enquêté sur Vincent Bolloré. Ça lui a valu 5 ans de procès. Donc, c'est vraiment un mec formidable. Et ils ont eu la bonne idée de le mettre à la tête de Complément. Et franchement, total.
Et ça, c'est un geste.
Total
même,
respect. Total respect.
Ouais,
après,
geste,
oui, alors juste un truc. Vous avez quand même dit, c'est quand même eux qui sortent l'affaire des armes, enfin, de la coopération France-Égypte pour aller tirer sur des 4x4 dans le désert qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Pardon, c'est pas eux qui le sortent, hein.
C'est
juste
Discos.
Eh oui, mais c'est clé. Non, ils relayent.
Ils
relayent les médias indépendants.
D'accord, mais ça passe à la télé quand même.
Oui, c'est bien. Non, mais c'est bien de relayer. Franchement, c'est super. Et Tristan est un mec génial. C'est vachement bien de relayer Discos. Mais qui sort l'affaire? C'est Discos. Pourquoi les documents arrivent chez Discos et pas à France Télé? Parce qu'ils savent que chez Discos, ça va sortir. Je précise que le premier scoop de Discos qui a marqué la naissance de ce média sur des armes françaises vendues à la coalition saoudienne, je veux dire, qui encerclait les civils au Yémen. C'est un scoop qui arrive chez Disclose, c'est intéressant de savoir dans quelles circonstances ça arrive. C'est un scoop qui, au départ, arrive dans une grande chaîne de télévision nationale française qui ne va pas le diffuser. C'est ça l'histoire du scoop des armes françaises au Yémen. Ça arrive chez Yann Barthès, chez TF1, c'est bloqué, c'est censuré et ça va se retrouver chez Disclose, dirigé entre parenthèses par un garçon qui s'appelle Geoffrey Livolzi, qui a voulu enquêter au sein d'envoyé spécial sur l'affaire France Télécom et le harcèlement des salariés de France Télécom. Ce projet n'a jamais réussi à passer à France Télévisions, dirigé par Delphine Ernotte, ancienne responsable de France Télécom. Donc c'est pour dire que.
Donc toutes ces révélations là, ce que vous nous dites sur le fait que c'était Quotidien qui aurait pu sortir l'affaire des armes
c'est
au Yémen.
C'est une journaliste de Quotidien qui a découvert
Valentine Auberti. Et vous allez en parler dans un livre qui va apparaître en janvier, si je ne me trompe pas.
Oui. L'Élysée et les oligarques contre l'info, 15 ans de pression sous les trois derniers quinquennats, Sarkozy, Hollande, Macron.
Alors, je me permets quand même de... C'est vrai, c'est Disclose qui sort l'affaire qui fera l'objet du complément d'enquête de demain, mais quand même, Mimi Marchand et Brigitte Macron, Éric Dupond-Moretti, enfin, complément d'enquête a manifestement quand même la possibilité d'enquêter sur le pouvoir en place.
Après, c'est des enquêtes qui sont déjà sorties, en l'occurrence. Hein.
Mimi Marchand, c'est en janvier.
C'est des informations qui existent déjà.
On ne sait pas ce qu'ils vont sortir.
Mais c'est pas le cas de... Peut-être, mais alors, il y a sûrement un peu plus, mais c'est pas le cas, par exemple, de ce que racontait Jean-Baptiste sur le Yémen ou de ce que sort Disclose. Là, c'est vraiment des exclus qui sortent. Là, c'est des médias qui reprennent effectivement le fil d'enquête ou de première révélation et qui sont allés fouiller un peu eux-mêmes. Mais, donc, on est quand même dans quelque chose qui est déjà dans le domaine public. Voilà,
cela dit, c'est courageux d'aller chercher Mimi Marchand. J'espère qu'au-delà de Mimi Marchand, qui est un personnage passionnant, périphérique, un peu au cœur de la République, on va interroger la responsabilité d'un certain Emmanuel et d'une certaine Brigitte sur la place qu'ils ont accordée à cette Michèle Marchand au cœur de l'Élysée. Comme disait Hollande, c'est quand même quelqu'un qui fait commerce de la vie privée, qu'on a installé au cœur de l'Élysée dans des réunions toutes les semaines. C'est quand même quelqu'un qui a des gros problèmes avec la justice depuis 20 ans, et pas qu'avec la justice. C'est quand même des pratiques très particulières. Elle est au cœur de l'État depuis des années, quoi qu'elle en dise, parce qu'en plus, à chaque fois, elle dit « je suis retraité, j'ai été planté mes carottes », c'est pas vrai. Non, mais donc ça va, quoi. Donc, à un moment donné, Michèle Marchand, c'est bien, mais ça serait bien de faire une enquête aussi sur la communication des Macron, quoi.
Bon, bah on verra si le complément d'enquête de janvier est à la hauteur de vos espérances, Jean-Baptiste. Alors, parlons d'Alexis Kohler, haut fonctionnaire, actuel secrétaire général de l'Élysée, qui aurait profité de son statut pour favoriser une énorme entreprise, le transporteur maritime et croisiériste MSC, une entreprise italo-suisse, dont les dirigeants se trouvent appartenir à la famille de Kohler, ce qu'il a omis de préciser, n'est-ce pas, à la haute autorité sur la transparence de la vie publique. C'est Mediapart qui a révélé la proximité entre Kohler et MSC et la manière dont Macron le protège au point d'avoir peut-être interrompu une enquête judiciaire sur ces conflits d'intérêts. Je voulais vous demander pourquoi ce sujet, Yanis et Jean-Baptiste, qu'est-ce qui vous a le plus sidéré? Comment est-ce qu'on peut résumer l'ampleur de cette affaire?
Comment on peut résumer ça? On dirait quand même que c'est l'un des plus gros scandales de la Macronie actuelle. Pourquoi on a décidé d'aller là-dessus? Justement parce que c'est un sujet qui était traité par aucune télévision, l'affaire Kohler. Alors, à juste titre.
Sinon, quand il y a des événements précis, enfin, par les journaux télévisés.
Oui, les journaux
même.
Télévisés, voilà, il y a eu quelques plateaux, il y a eu quelques petits reportages, mais nous, on parle vraiment d'un sujet long, enquête, investigation. On essaye de comprendre l'histoire, parce que c'est une histoire qui est très, très complexe, ça. Et le pouvoir a beaucoup joué là-dessus.
D'ailleurs, Mediapart a un énorme dossier.
Mediapart a un énorme dossier, c'est long, il faut s'y plonger, il faut vraiment tout lire, tout comprendre, etc. Et donc, nous, on s'est dit que voilà, c'est un énorme scandale. Il est important aujourd'hui que les gens puissent comprendre l'histoire qui touche le bras droit d'Emmanuel Macron. Voilà, tout simplement.
La très grande vertu de leur travail, c'est que justement, vous dites le dossier est énorme sur Mediapart, là, en moins d'une heure, On a une compréhension de l'affaire qui pourtant est très complexe. Et ça, c'est salvateur, parce que les gens, ils n'ont pas le temps d'aller chercher dans des dossiers, dans des machins, et c'est aussi le but de l'audiovisuel. Il y a une démarche un peu plus paresseuse quand on regarde un documentaire et quand on lit un dossier, etc. Mais ça permet aussi de toucher beaucoup plus de monde et de convaincre les récalcitrants à aller chercher l'info que, ben, en fait, là, elle est facilement accessible et résumée. Et c'est extrêmement, extrêmement important qu'il y ait des documents comme ça qui permettent aux gens, de manière condensée, ils n'ont pas un temps fou à consacrer à l'information, mais en général. Donc, l'audiovisuel a aussi cette vertu-là, quand elle est faite de cette manière, de faire gagner du temps et donc de toucher beaucoup plus de monde.
C'est là qu'il y a un écosystème à favoriser entre médias indépendants, parce qu'effectivement, par exemple, Martine Orange ou Mauduit, qui ont beaucoup travaillé sur l'affaire Colère...
De Mediapart, ont fait
un travail formidable. Après, tout le monde n'est pas abonné à Mediapart, les papiers sont parfois un peu complexes à comprendre. Nous, on a une petite expérience de mettre en image de manière pédagogique et si possible à peu près compréhensible des histoires compliquées. C'est tout l'enjeu de l'investigation et c'est ce qu'on faisait à Spécial Investigation. Et donc, je pense qu'on peut s'entraider. Ils sont valorisés par le film. Nous, on est content aussi qu'ils aient amorcé l'enquête. Et effectivement, quand il y a 1 million...
Ils ont amorcé
l'enquête. Enfin, ils ont largement développé l'enquête, on va dire. Après, on est parti en Italie essayer de faire des compléments. Mais je veux dire, le fait que plus d'1 million de gens regardent ça, et j'espère qu'on prenne le film que Yanis a géré, ça fait plaisir parce que l'investigation, le problème, c'est que c'est vachement important, mais aussi, il faut que ce soit compris par le grand public. Et c'est vrai que l'audiovisuel est un média de masse, quoi. Et c'est là que peut-être on peut apporter une petite pierre. On n'a pas le talent de nos amis de Mediapart ou d'autres, hein, je veux dire. Mais par contre, on essaie de mettre en image, et là, je pense qu'on...
Oui, c'est le grand mérite de votre documentaire, vraiment. Un moment clé, celui où on découvre que grâce à Martine Orange de Mediapart, Alexis Colère est lié à la famille Aponte qui dirige MSC.
Pour comprendre, il faut faire un peu de généalogie. Né en 1972 à Strasbourg, Alexis Colère est le fils de Charles Colère et de Sola Hakim. Les voici en 2017, filmés par France 3 Alsace, quand leur fils a été nommé secrétaire général de l'Élysée. Les racines d'Alexis Colère, c'est donc l'Alsace. Mais aussi Israël. Sa mère, Sola Hakim, est née en 1932 à Haïfa, dans une famille juive de Palestine. C'est par elle que le secrétaire général de l'Élysée est lié à la famille Aponte. Sola Hakim est en effet la cousine germaine de Rafaela Diamant. C'est à Naples, dans les années 60, que Rafaela rencontre Gianluigi. Ensemble, ils fonderont MSC. Au sein de la compagnie, les postes les plus importants sont occupés par des membres de la famille. Diego, le fils, s'occupe des porte-conteneurs et des terminaux portuaires. Alexa, la fille, gère les finances. Quant à Esther Diamant, la tante de Rafaela, elle a longtemps dirigé MSC Israël.
Donc voilà pour les relations entre le secrétaire général de l'Élysée et cet énorme transporteur maritime. Et puis un autre moment clé, en 2017, Macron, fraîchement élu, fait tout de suite, c'est saisissant dans votre documentaire, un geste en faveur de ce transporteur de MSC, un geste étonnant. Est-ce que vous pouvez nous le résumer, nous le raconter, Jean-Baptiste, Yanis ?
Non, mais c'est simple, voilà. Macron, en fait, il faut savoir que quand il est élu, le premier déplacement qu'il fait, donc, c'est à Saint-Nazaire, les chantiers navals de Saint-Nazaire, donc ils sont des énormes chantiers, on construit des énormes paquebots. Et donc, il va là-bas pour, si on veut, interrompre, pour mettre fin à un accord qui avait été conclu, parce que les chantiers de Saint-Nazaire, en fait, ils sont en crise, ils sont en faillite, ils ont besoin d'être rachetés. Et donc, il y avait un repreneur italien, donc un repreneur public italien, Fincantieri.
Pas MSC, voilà.
Voilà, pas MSC. Qui avait trouvé un accord avec l'État pour reprendre à 51% les chantiers navals de l'Atlantique. Sauf que Macron, justement, va mettre un terme à ce deal. Et la question qu'on pose, c'est pourquoi il a mis un terme à ce deal avec Fincantieri ? Est-ce qu'il n'a pas cherché à favoriser MSC ? Parce que MSC ne voulait pas de Fincantieri sur les chantiers navals de l'Atlantique, puisque, en fait, MSC fait construire la plupart de ses paquebots aux chantiers navals de l'Atlantique et il bénéficie d'énormes aides publiques qui se seraient possiblement arrêtées si Fincantieri avait repris, en fait, les chantiers navals de l'Atlantique.
Donc le soupçon, en fait, c'est que Macron ait favorisé MSC en interrompant ce contrat qui avait été établi sous Hollande.
C'est ça. Ce qui est étrange, c'est que Gianluigi Aponte ne veut pas de Fincantieri, sauf que Fincantieri était un repreneur solide, il s'était mis d'accord avec l'État, et bizarrement, Emmanuel Macron, quand Gianluigi Aponte ne veut pas de MSC, décide de mettre un terme à l'accord.
De
Le Figantieri, oui.
Ce qui est constant sur plusieurs années, c'est qu'Alexis Kohler, qui est au cœur de l'État depuis des années et qui est très proche d'Emmanuel Macron, il sera son directeur de cabinet à Bercy, il va s'occuper de sa campagne présidentielle pendant quelques mois en 2016-2017.
Alors qu'il est chez MSC, d'ailleurs.
Tout en étant... C'est-à-dire qu'il est rémunéré par MSC 28 000 euros par mois.
Il est en train de pantoufler, en fait, dans l'entreprise familiale. Ouais.
Voilà, en tant que directeur financier de cette énorme compagnie maritime, c'est quand même pas rien. Et dans le même temps, il va piloter un petit peu ou co-gérer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc là, on se dit, mais attendez, le type qui gère la campagne présidentielle de Macron, en fait, il est payé par le transporteur italo-suisse, dont il n'a pas dit que c'était un membre de sa famille. Donc déjà, c'est quand même un peu compliqué. Et effectivement, Macron arrive, et première chose qu'il décide avec Kohler, tous les deux, c'est de bouleverser l'affaire des chantiers de Saint-Nazaire dans un sens favorable à Gianluigi Aponte. Donc il y a eu beaucoup comme ça de coups de main à cette compagnie. Bon, en soi, pourquoi pas, ils sont peut-être très sympathiques dans cette compagnie. Il serait peut-être bien quand même de nous dire que Kohler avait des liens familiaux avec cette compagnie, qu'il a rémunéré quand il faisait la campagne de Macron. Enfin, on a un peu le sentiment, comme dit Laurent Mauduit de Mediapart, que on se demande un peu si on est en France ou dans un pays proche de l'Italie ou du sud de l'Italie éventuellement.
C'est sympa, c'est la mafia quoi, voilà. Qu'on décrit. Enfin, si les faits sont avérés, bien évidemment, mais bon.
Dernier point, on nous parle d'une compagnie italienne, mais en réalité, quand on creuse un peu, non, c'est Italo-Suisse basé à Genève, où on paye beaucoup moins d'impôts, avec des navires immatriculés souvent au Libéria. Et puis en fait, c'est Italo-Suisso-Israélien, donc c'est quand même une compagnie qui a des implantations très, très, très variées mondialement et que le pouvoir macronien a beaucoup aidé, donc ça pose question. Et en gros, à part Martine Orange et Laurent Mauduit qui ont galéré comme des malades pour avoir des infos de la part des pouvoirs publics français, parce que c'est des dossiers sur lesquels on n'a jamais aucune info, enfin, il faut bosser là-dessus, quoi.
Et donc là, on voit d'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir l'image, mais on voit Macron qui baptise, enfin, qui voilà. Célèbre le bateau, un bateau MSC qui vient d'être construit. Donc c'est très saisissant, en fait. Cette image, elle résume complètement cette proximité problématique, en fait, hein, avec cette énorme entreprise. Alors la suite est assez incroyable, tout est incroyable dans cette histoire. Suite aux révélations de Mediapart, l'association Anticorp porte plainte pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence. Mais une intervention de Macron va conduire finalement à un non-lieu. Heureusement, depuis, l'enquête a été relancée. Ce que vous apportez, vous, par rapport à Mediapart, outre l'accessibilité, la vulgarisation de cette affaire, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est effectivement beaucoup plus facile à regarder que de lire le gros dossier de Mediapart. Qu'est-ce que vous révélez dans ce documentaire? Qu'est-ce que vous avez apporté?
On explique tout simplement comment le gouvernement va exercer de fortes pressions sur Anticorp, qui a besoin de faire renouveler son agrément. L'agrément, c'est un droit de saisir la justice dans des affaires quand celle-ci, quand le parquet n'y va pas. Tout simplement.
Mais ça avait quand même été raconté par Mediapart. Ce que vous apportez, c'est la partie italienne, non ?
Ah, la partie italienne. Ah, d'accord, je pensais
si
qu'on parlait d'Anticorp.
De...
Non, je pensais qu'on était sur Anticorp avant. C'est parce que vous parliez d'Anticorp avant.
C'est vrai que Mediapart a raconté les liens cachés donc, entre Alexis Kohler et MSC, les liens familiaux. Après, l'étape suivante, logique, et je trouve ça intéressant qu'il y ait plusieurs pièces de puzzle et qu'on avance tous un petit peu
ensemble.
En espèce de coproduction. Moi, je dis toujours, Mediapart avance un énorme pion. Derrière, si on peut, on en avance un. Peut-être les copains de Blast vont en avancer un. On est dans une coproduction. On est tous des petits médias, je veux dire, on n'est pas TF1, donc on avance en s'entraidant. Ils avancent une pierre, génial. On part en Italie, on dit c'est quoi MSC ? Yannis découvre que donc il y a des problèmes de pollution, il y a des problèmes d'opacité financière et d'optimisation fiscale qui ont l'air assez gratinés, et surtout, bon, on avait parlé de ces histoires de saisie de drogue, j'y croyais à peine, Yannis vérifie, il y a beaucoup de saisies de drogue avec des grosses quantités, et donc on va tout simplement dire bonjour monsieur aux autorités italiennes, excusez-moi, c'est quoi cette histoire, à quel niveau se situe la responsabilité ? Parce que quand vous avez 16 tonnes de drogue sur un bateau saisi aux États-Unis, et c'est une des dizaines de saisies récentes, et que une partie de l'équipage de MSC est arrêtée, jugée, condamnée.
La plus grosse saisie de l'histoire des États-Unis.
Oui, au bout d'un moment, c'est. Alors attendez, à quel niveau de la compagnie il y a une complicité avec la 'Ndrangheta, qui est cette mafia du sud de l'Italie, qui contrôle, enfin, qui infiltre depuis des années le fameux port sud-italien de Gioia Tauro, dont le patron de MSC a pris le contrôle complet en 2019. C'est-à-dire qu'il y a des liens avec la 'Ndrangheta qui sont quand même suspects, donc on enquête là-dessus. Et là.
Vous interviewez un procureur, hein, un vice-procureur de Calabre, et vous lui posez la question des responsabilités de haut. Enfin, est-ce qu'il y a des hauts responsables de MSC qui pourraient avoir connaissance ou être impliqués dans ces énormes trafics de drogue? On regarde.
En 2016, quand 300 kilos de cocaïne avaient été saisis à Gioia Tauro, un représentant de MSC avait été formellement mis en cause.
Noi non abbiamo mai parlato di una connivenza, di una collusione della società, ma sicuramente di singole persone, di piccoli segmenti operativi all'interno della società.
Suite à une saisie en 2016, le procureur adjoint avait pourtant publiquement mis en cause MSC.
Allora, quello che doveva cambiare MSC era sicuramente una diversa gestione delle turnazioni del personale, allo scopo di evitare, diciamo, la sedimentazione, il consolidamento di rapporti tra singole persone, singoli trasportatori, singoli mittenti di merce, singoli operatori portuali interni, singoli trasportatori su gomma, poi delle merci che vengono portate.
À la fin de son interview, notre vice-procureur de Calabre reconnaît qu'il est possible que certains cadres de MSC coopèrent avec la 'Ndrangheta.
Quello che io penso è che quindi così come c'è stato, potrà continuare ad esserci e ci sarà senz'altro anche nel prossimo futuro l'azione di collusione, di connivenza, di corruzione di qualcuno ai vari livelli della società, prevalentemente di quello esecutivo, ma non si può escludere anche di livello più alto.
Voilà, alors de ce passage, vous avez fait un tweet pour promouvoir votre doc. Vous écrivez « Comment Alexis Kohler, proche collaborateur de Macron, a-t-il pu favoriser les intérêts d'une compagnie maritime dont on a découvert que plusieurs cargos transportaient de la cocaïne ?» Je voulais qu'on revienne sur ce tweet. Je l'ai trouvé un peu, un peu racoleur. Je me demandais si ce n'était pas un peu exagéré de mettre Kohler. Parce que quand on regarde le documentaire et qu'on est dans la partie italienne, on est avec vous sur le port de Gênes. Est-ce que c'est le port de Gênes où vous faites toutes vos interviews?
Plusieurs ports, Gênes, Naples, voilà. Taureau. Ouais.
Vous faites des interviews avec des gens qui pointent ces histoires de pollution, de trafic de drogue, etc. Mais est-ce que on est quand même loin d'Alexis Kohler? Il n'est plus question d'Alexis Kohler pendant ce passage-là. Est-ce que de ces incertitudes du procureur, on peut faire un tweet?
Le tweet ramasse en quelques lignes ce qu'il y a un peu dans le sujet. Alors évidemment, c'est archi-réducteur un tweet, hein, c'est pas le film.
Par définition, ouais.
Après, moi je serais pas aussi affirmatif que vous sur le fait qu'il n'y a rien à voir avec colère, entre colère et la drogue.
Ah, moi je suis pas affirmatif, je pose la question.
Il voilà. a quand même été directeur financier de cette boîte, ce qui est pas rien, qui est l'un des postes les plus importants, donc forcément qu'il était au courant sur les cargos qui ont été interceptés avec de la drogue.
Il y a un vrai questionnement, parce que là ils disent l'aspect de la drogue, moi c'est ce que je voulais dire à la fin de la séquence, mais si je veux dire quelque chose, je dirais ça. Quand même, on se rend compte qu'on a un quelqu'un qui était directeur financier d'une entreprise et ensuite, avant et après, qui était dans l'État à gérer cette entreprise.
Qui a travaillé pour Macron avant et après.
Exactement, mais avec des implications dans MSC avant et après. Donc malgré tout, quand il y va, donc, il fait du pantouflage, enfin, voilà, il part à MSC, il a accès à toutes les informations. Il voit quand même que cette entreprise a des pratiques fiscales extrêmement douteuses. Il voit que cette entreprise a des problématiques avec de la cocaïne, du trafic de drogue. Il choisit quand même de favoriser cette entreprise. Donc c'est un choix malgré tout. Il avait des informations. Je ne sais pas quel était l'état des lieux de l'entreprise qui voulait reprendre les marchés de l'Atlantique, par exemple. Mais voilà, il aurait peut-être pu se dire, bah voilà, il y en a une, elle n'a pas d'histoire d'évasion fiscale et machin. Et l'autre, bah, il en a quand même choisi une plutôt qu'une autre. Donc,
Il y a un autre point aussi. C'est vrai qu'on fait un tweet un peu accrocheur, peut-être un peu provocateur pour Alexis Kohler. Mais moi, j'ai juste une question. Il y a quand même un truc qui me pose un problème dans ce pays en ce moment. Ça fait 2 mois et demi. Qu'on écrit très loyalement à l'Élysée en disant voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Et on leur a même donné, on a hésité, on leur a dit, allez, on va être transparent, on va leur lancer la liste des 10 épisodes. On leur donne nos 10 thèmes avant de commencer, je veux dire début septembre. Cher monsieur, chère madame, peut-on se parler? Bon, il ne se passe rien en termes de mail. 2 heures après, j'ai un coup de fil sur mon téléphone portable, ça vient d'un 06, je décroche, une dame charmante qui me tire les verres du nez. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi? Vous allez où? Vous allez faire quoi? Vous allez raconter quoi?
Elle se présente.
Si, comme... l'Élysée, service de communication. Ah. Ok. Ça passe très vite, elle me tient les verres du nez. Bon, je suis pas né il y a 2 ans, donc je ne lui dis pas grand-chose. Je lui dis juste, par contre, nous, on aimerait bien pouvoir vous interviewer sur nos différents épisodes. Elle raccroche. Et puis, au bout de 2 secondes, je me dis, mais en fait, elle ne s'est pas présentée. Puis, je n'ai pas de réponse à mon mail. Donc, je lui fais un petit texto. Excusez-moi, madame, juste votre nom et votre fonction. Je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire qu'on n'a aucune réponse à aucun de nos mails depuis 2 mois et demi, et cette dame se cache. Donc, ce n'est pas la mafia, la France, hein, je veux dire. Mais c'est quoi ces pratiques? Enfin, on est journaliste, moi j'ai une carte de presse avec marqué bleu, blanc, rouge dessus, on appelle le pouvoir, on pose des questions très poliment, il y a zéro réponse. Mais zéro réponse.
Ouais, ça, c'est très répandu, oui. Par contre. Mais le petit coup de fil anonyme, c'est assez original.
C'est pas vraiment anonyme. Mais ou alors, il n'y a pas besoin de journalistes dans une démocratie. Alors, c'est plus simple, on les enlève. Mais moi, je demande, excusez-moi, vous êtes qui? Elle sait qui je suis. Moi, je me suis présenté. Moi, je ne sais pas qui elle est. C'est des gens, on ne sait pas qui ils sont, ils ne répondent pas. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être en face d'une espèce de mafia républicaine. C'est insupportable. C'est des gens qui sont quand même payés avec nos impôts, qui doivent rendre un minimum de compte. Alors, je sais bien que la presse n'existe plus beaucoup en France, ou les dérange pas beaucoup. Ils n'ont pas l'air d'être très mordus souvent. Enfin, peut-être qu'on les morde un peu plus. Ça leur apprendrait un peu à parler aux journalistes. Je ne demande pas qu'on soit aux États-Unis, mais juste que la presse existe. Donc, on n'existe pas. Très bien. Eh ben, nous, on enquête quand même. On sort les trucs. C'est pas possible. Si ce type est de bonne foi, pardon. Sur la cocaïne, sur tout le reste, sur l'évasion fiscale, sur la Suisse, à ce moment-là, il dit, écoutez, lui, ou comme il est débordé, je parle, quelqu'un,
un porte-parole de ce pouvoir qui vient nous expliquer ce qui se passe. Ils ne peuvent pas ne rien dire, c'est impossible sur ce genre d'affaires.
Voilà, donc il faut voir le film de Yanis Mamdi et Jean-Baptiste Rivoire sur Alexis Colère. Vous pouvez le voir sur Blast, vous pouvez le voir sur YouTube. Vous regarderez la campagne électorale et le quinquennat Macron d'une toute autre manière, une fois que vous aurez vu ce film. Et pour contribuer à financer l'ensemble de la série, campagne sur Kiss Kiss Bank Bank, on vous met le lien en bas dans le contenu. Et pour aider Blast à se développer, on vous met le lien aussi. Et Politis, et puisqu'on parle de médias indépendants et de leur importance pour que vive la démocratie, je vous avais promis une information sur Arrêt sur Image. Regardez cette photo. On va faire un arrêt sur Image. C'est nous. Et c'est écrit « Donation d'action de la société dénommée Arrêt sur Image par M. Daniel Schneiderman ». C'était l'équipe d'Arrêt sur Image chez le notaire jeudi dernier. On vous l'avait dit, c'est fait. Daniel, qui était l'actionnaire unique du média, a cédé ses parts à l'équipe. Nous sommes tous co-actionnaires d'Arrêt sur Image. Mais Daniel n'est pas exactement à la retraite, vous l'aurez constaté. Un édito par jour, 3 émissions par mois, entre autres. Tout change et rien ne change. À la semaine prochaine.